Le paddock RMC. Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans le paddock RMC, votre rendez-vous Formule 1 sur RMC tous les jeudis avant les Grands Prix, tous les lundis après les Grands Prix pour le débriefing et direction Monza, le temple de la vitesse, un des circuits les plus attendus de l'année, le mythique circuit au nord de Milan et notre duo de pilotes. À ma gauche, il me fait penser à ce pilote italien aux 229 départs en Formule 1 et aux 3 victoires entre 96 et 2009. Est-ce que vous avez une petite idée déjà ? Là, je vais vous donner l'indice fatal, messieurs, coéquipier de Fernando Alonso chez Renault lors de ces deux titres. Giancarlo Fisichella, aka Louis Gerbier.
Eh ben, c'est un honneur, bonjour à tous.
Tu prends
Giancarlo ? Je prends, évidemment.
C'est mieux qu'Arnaud Trulli.
Ouais, c'est mieux qu'Arnaud Trulli, en effet. Et puis, c'est super, c'était un grand pilote et une grande époque pour la Formule 1 française.
Exactement, avec ces titres, cette line-up qui était une belle line-up. Hein.
Ah ouais.
Jeune Fernando Alonso.
Belle line-up, belle voiture, beau moteur, il y avait tout.
Exactement, beau moteur français.
Et oui.
Exactement. À ma droite, alors il est jeune comme Kimi Antonelli, mais est-ce qu'on le compare vraiment ? Parce que tu vois, il y a peut-être les petits cheveux bouclés. J'avais aussi Leonardo Fornaroli, champion de F2 en 2026, tu choisis quoi ?
Ah, t'es plus niche déjà.
Oui, mais bon, aborder le paddock.
Ouais, les deux sont des potentiels champions.
Petit Kimi parce qu'il n'est pas encore champion ? Qu'est-ce qu'on choisit pour...
Allez, moi je lui dis Kimi parce qu'il va partir en fond de grille ce week-end.
Ilyes Kimi Barry, salut Ilyes, ça va ?
Salut à vous, bon, ça va très bien.
Pour le fond de grille, ouais, c'est pas mal. Voilà, Monza, l'Italie, présentation dans un instant de cette 13e épreuve du championnat du monde de Formule 1, Monza et son fameux Autodromo. Est-ce que Ferrari peut gagner ? Amélioration moteur, on est en Italie, Lewis qui arrive en F40, voilà, tout ce que ça engendre, Charles Leclerc qui a déjà gagné il y a deux ans.
Bien sûr,
est-ce que vous y croyez ? On va aussi parler d'Isaac Hadjar, encore forfait. Parce qu'on commence à s'inquiéter, parce que là, il y avait deux semaines entre Zandvoort et Monza. Il va laisser une nouvelle fois son baquet à Liam Lawson. Et Tsunoda va monter ensuite chez Racing Bulls. Et puis, en bref, les petites informations, prolongation pour Norris. Il y a un nouvel ingénieur en chef chez Red Bull. Et puis, tiens, les écuries qui vont apporter des évolutions. C'est parti pour le paddock. Présentation du Grand Prix d'Italie à Monza. Des frissons quand même.
Ah, c'est un bel hymne, mais il me rappelle des traumatismes plus sur le football, donc je préfère ne pas le chanter.
Ouais, mais en Formule 1, on pense quoi ? Schumacher qui gagne à Monza.
On pense chaque victoire de la Scuderia et surtout c'est à chaque fois cette image qu'on avait eue particulièrement avec la victoire de Charles Leclerc de toute la piste remplie de tifosi en rouge qui le chante, qui s'époumonne en chantant l'hymne. Et c'est vrai que si on peut le revu ce week-end, je serais pas contre quand même. Et
évidemment, une victoire de Ferrari à Monza, c'est toujours quelque chose. C'est 5,793 km. C'est 11 virages, tous aussi iconiques. Vous en avez un préféré ?
Ah bah la parabolique quand même.
Parabolique.
C'est toujours sympa, mais
Le premier sont... là, tu rentres bien à fond là à l'intérieur. La parabolique, j'ai toujours du mal sur les simulateurs à la prendre. Je sais pas pourquoi.
Oui, non, mais elle est compliquée. C'est ça aussi qui la rend sympa. Et puis désormais on a un moyen de filmer ces grands prix qui fait que on voit toujours. Enfin, je trouve que les images sont belles d'une monoplace qui s'engage là-dedans et on a l'impression qu'elle entre dans une centrifugeuse puis elle ressort sur les vibreurs. C'est un moment que j'aime bien. Mais globalement, c'est un circuit sympa. Déjà, on le sait parce qu'il est... C'est un circuit rapide. C'est un circuit avec des virages, clairs, quoi. Tu vois, il n'y a pas de demi-virage comme dans certains nouveaux circuits ou quoi.
Ça ne va pas être le Madring, hein.
Oui, voilà, exactement. Donc, non, on a toujours hâte de Monza. Et puis, moi qui ne suis pas un fan de Zandvoort, du coup, je suis très content qu'on arrive à Monza pour passer un bon week-end de Formule 1. Quoi.
Moi, j'aime bien Zandvoort, hein, mais visiblement, tu n'aimes pas.
J'ai toujours un peu de mal, ouais.
Ferrari, cette saison, 2 victoires. Lewis Hamilton en Espagne, à Barcelone, pour la dernière à Barcelone, et Charles Leclerc à Silverstone. Charles Leclerc s'est imposé en 2024, évidemment, c'était d'autres voitures. Hamilton ne s'est plus imposé à Monza depuis 2018. Ça fait très longtemps pour Lewis. On se souvient évidemment d'une image très forte en 2021. La voiture de Lewis par-dessus celle de Max Verstappen, une image forte de ce championnat qui a coûté probablement très cher à l'arrivée. Cette question toute simple, quand vous voyez la forme de Ferrari qui a raté le podium sur les 2 derniers Grands Prix, Ilyès, est-ce que tu crois à une victoire de Ferrari qui, évidemment, qui dit Monza, dit on apporte des améliorations, notamment amélioration moteur, même si Fred Vasseur a tempéré, c'est avec le fameux adio, rattraper son retard sur le moteur Red Bull. Mmh. On va pas révolutionner non plus la propulsion de la Ferrari.
Bah comme ça, la dynamique récente me pousse à dire non, j'y crois pas, parce que sur un circuit moteur, tu l'as dit, Mercedes est favorite. Même les McLaren, que ce soit sur la dynamique récente, mais même en termes de moteur, surtout Norris, je le sens un peu plus devant. Donc on se dit, peut-être Ferrari va avoir un peu de mal à se mêler à la victoire. Mais enfin, si on prend les derniers Grands Prix, Ferrari, là où ils ont le plus galéré, et c'est ce qui leur a coûté la victoire, ou en tout cas de jouer la victoire, c'est les qualifications. Donc on se dit, avec un Antonelli qui part en fond de grille, tu peux gratter une place. Avec un Adieu 2, le point le plus important pour moi sera de faire une bonne qualification. Et franchement, avec une bonne qualification, peut-être une deuxième ligne bloquée par les Ferrari, ils vont pouvoir, en termes de rythme et en termes de stratégie aussi, jouer la victoire. Il y a peut-être 2 points clés, les qualifications dans un premier temps, et ensuite, enfin, jouer intelligemment la course, que ce soit les stratégies ou entre coéquipiers, pour optimiser la victoire pour Ferrari.
C'est clairement la petite musique qui est venue dans le débriefing de Zandvoort, Louis, c'est... On n'a pas été assez bon en qualif, et à un moment donné, on ne peut pas non plus espérer remonter tout le monde, surtout les client qu'il y a devant, un McLaren qui revient fort et évidemment les Mercedes.
C'est ça, moi j'ai l'impression que McLaren, ils ont pris l'habitude de faire un peu comme ça, ils commencent piano et puis à la mi-saison...
Là c'est plus piastri, hein.
À la mi-saison ça accélère toujours un peu, on a un champion du monde qui a retrouvé un peu de couleur, donc... Malheureusement, je les vois pas attraper la victoire. En revanche, comme ces derniers temps, je les vois très bien placés. Tu l'as dit, Antonelli, bon, ça reste Monza, c'est peut-être un des meilleurs endroits pour partir derrière, donc il va sûrement remonter quand même pas mal. Mais j'ai peur que pour Ferrari, malheureusement, ça soit encore un peu court et peut-être que lundi, on se rappellera, le highlight du week-end, ce sera la F40 de Lewis et pas une victoire. Quoi.
Il est arrivé quasiment avec la même tenue quand il a posé pour à Maranello. Hein,
à peu près, oui.
Je crois, hein, ce long manteau, etc. Est-ce qu'on met une fois de plus les Mercedes favoris, Ilyès, tu le disais, parce que quand on regarde un peu les résultats sur des circuits globalement similaires... Moi, je prenais globalement l'Albert Park à Melbourne, à peu près pareil, on va très vite aussi, des belles lignes droites. Spielberg, c'est 2 victoires de George Russell et on voit que les Mercedes sont plutôt à l'aise sur ce type de circuit.
Bon, évidemment, quand on a... selon les FIA, on n'a pas le meilleur moteur, mais bon, je pense que quand on a le meilleur moteur de la grille, forcément, les circuits moteurs, ça nous avantage grandement. D'habitude, on mettait aussi Mercedes favorite parce qu'il y avait Antonelli qui avait un rythme de champion, qui avait le mental d'un champion. Donc forcément... Que ce soit Antonelli ou Russell, on imaginait que l'un des deux fasse le job et joue la victoire. Par contre, là, avec un Antonelli qui part derrière, un Russell qui est peut-être plus en difficulté sur les dernières courses et un Norris qui monte en grade, on peut se dire que c'est pas si clair que ça pour la victoire. Et justement, peut-être un Russell et Norris qui vont un peu se mêler à la bagarre, ça peut permettre aux Ferrari de la jouer la victoire.
Elles ont quand même besoin d'une perf, ces Ferrari, parce qu'on reste sur... De sortie, j'ai envie de dire un peu moyennasse, avec en plus à Zandvoort, non pas, on va pas faire une affaire d'État, mais un petit peu de tension avec Lewis qui klaxonnait derrière Charles.
Oui, et puis de toute façon, on les comprend parce que c'est frustrant, cette écurie, de toute façon, on l'attend tous les ans, cette année, on l'attendait particulièrement. Et comme tu dis, ils sont souvent placés, mais très rarement gagnants. Et donc, ça crée une grosse frustration parce que on a cette sensation qu'ils. Ils sont dans l'antichambre, ils sont tout proches. Mais en fait, chaque week-end, ça ne le fait pas. Et puis chaque week-end, on réalise qu'ils ne sont peut-être pas si proches que ça et qu'il y a un petit écart quand même. Et puis alors là, le, comment dire, on peut dire que le début de saison, c'était un peu un... Il y, il y avait que Mercedes à battre, en gros. Maintenant, il y a McLaren qui revient. Donc, la tâche est en train de se complexifier. Donc, moi, je suis plutôt pessimiste, en fait, sur la Scuderia ce week-end.
Est-ce qu'on se trompe un peu dans le storytelling, entre guillemets, Ilias, où les années d'avant, on disait les pilotes Ferrari n'ont pas la machine pour briller. Et cette année, on disait plutôt, justement, ils ont la machine, mais ils n'arrivent pas à scorer, ils n'arrivent pas à capitaliser. Alors, il y a quand même deux victoires, hein. Ça faut quand même aussi le noter, mais est-ce qu'on n'est pas un peu floué? Est-ce qu'on ne voit pas un peu la voiture trop belle?
Trop belle, peut-être pas quand même, parce qu'elle reste très performante, mais c'est ça le problème avec Ferrari, c'est qu'il a toujours manqué quelque chose. Je me souviens que 2022, ils ont une très bonne voiture, il manquait un peu de stratégie, peut-être un peu d'expérience pour Charles Leclerc.
Les arrêts au stand,
aussi.
Par exemple.
Cette année, début de saison, on disait, il manque le moteur. Bon, le moteur, ça ne s'est pas vraiment amélioré, ils ont peut-être un peu réduit le gap. Au final, c'est un peu que ce soit la stratégie entre les deux pilotes ou surtout les qualifications. Au final, avec Ferrari, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'ils sont proches, ils tatillent la victoire, mais ils n'arrivent jamais à franchir le cap, à vraiment s'imposer comme une écurie favorite pour gagner les courses. Et c'est le bilan des 5 dernières années, peut-être même des 10 dernières années de Ferrari. Et j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé malgré le changement de directeur.
Bon, même des 15 dernières années.
Ouais, on peut remonter même à 20 peut-être carrément.
Oui, ouais, que le titre de
Raikkonen. De 2008, c'est ça, hein?
2007,
ça veut
2008,
dire ouais,
c'est
ça, 20 ans.
Et oui, 20 ans, 19 ans. Et, écoute, on compte. Évidemment, vous l'avez dit, ces qualifs sont importantes. Est-ce que dans la flamme italienne, la flamme de Monza, où évidemment Charles Leclerc et Lewis Hamilton vont avoir tous les yeux rivés sur leur baquet. Est-ce que vous croyez à quelque chose, à une perf, à
la ferveur,
un éclair de génie
La ferveur, c'est magnifique. Ça peut permettre de transcender des pilotes, mais ça ne fait pas gagner de dixième à une voiture. Donc, ça va être très compliqué. En qualif, ils seront là. Et alors, ouais, peut-être, comme tu le dis, cet environnement va permettre aux pilotes le dimanche d'avoir ce petit truc en plus qui n'ont pas eu ces derniers temps, et je pense il serait peut-être intelligent, même si politiquement ça, c'est très très compliqué à faire, de, comme tu l'as un peu évoqué dès le début, Ilias, de courir à deux dès le début, quoi. C'est-à-dire faut maximiser là, parce que tu es à Monza justement, et que là on parle de Ferrari avant de parler de Lewis, avant de parler de Charles, et c'est Ferrari qui doit réussir son week-end et attraper un podium, évidemment, mais pourquoi pas la victoire. Mais ouais, ça va être chaud.
Alors, on a longtemps stigmatisé l'année dernière McLaren qui n'arrivait pas à choisir entre Norris et Piastri. Est-ce que c'est possible, Ilias, de choisir entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui est mieux classé au classement des pilotes, puisqu'il est deuxième ex aequo avec George Russell, 183 points, et Charles Leclerc derrière, 155 points, soit 28 points de différence?
Moi, je l'avais dit, je pense que sur cette première année, en tout cas de nouvelle réglementation, entre les deux pilotes, il n'y aura pas de choix, parce que Leclerc, fils prodige, Hamilton, cette fois champion du monde, ils ne pourront pas faire choix cette année entre premier et second pilote. Par contre, ils doivent faire un choix quand il s'agit de Ferrari. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Leclerc est premier et Hamilton est deuxième, ou l'inverse. Selon les courses, si Leclerc peut jouer la victoire, Hamilton, tu vas avantager Leclerc. Si Hamilton joue la victoire, Leclerc, tu prends sur toi sur cette course. Et tu laisses Hamilton. Pour moi, c'est Ferrari qui doit primer sur les deux. Et je pense que cette course peut être un petit tournant, dans le sens où les deux pilotes savent à quel point Monza est importante pour Ferrari. Et donc, ils vont pouvoir peut-être mettre leurs égos de côté et se dire, pour Ferrari, à domicile, on va faire ce qui doit être fait pour Ferrari.
Ah bah là, c'est clair qu'il va y avoir tout l'état-major. John Elkann, évidemment, le patron. Est-ce que justement, ce qui s'est passé à Zandvoort, qui, pas non plus, je le disais, une affaire d'État, mais qui illustre quand même que ce n'est pas évident de choisir. On a tout de suite derrière aplani les choses. Fred Vasseur, évidemment, bon manager et bon team principal qu'il est, les pilotes aussi, et que Monza doit illustrer, non pas un nouveau départ, mais que, on a compris ce qui s'est passé à Zandvoort, il ne fallait pas le faire, mais on est deux garçons intelligents, parce qu'ils le sont, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, et qu'on va pouvoir avancer pour la suite de la saison en bonne intelligence et pas tout simplement se tirer dans les pattes, quoi.
Oui, alors, Zandvoort, ça se reproduira sûrement pas à ce niveau-là. Après, de là à avoir... On sait comment ça se passe, ce sont des compétiteurs, il y en a un qui a 7 titres de champion, c'est compliqué aussi. De là, on est dans le studio également entre gens intelligents, je pense, et c'est facile pour nous de se dire ça serait bien de voilà, chacun fait un pas vers l'autre et tout, mais quand tu es à 300 km/h, que tu as gagné 7 titres et que c'est plus compliqué aussi de l'accepter sur le moment. Ne pas l'accepter, moi ça me dérange pas, c'est un peu leur rôle, mais au moins de pas pourrir tout le monde à la radio déjà, de pas justement créer une affaire d'État là où il y en a pas, puisque c'est la base, évidemment que quand t'es derrière ton coéquipier, bah c'est relou, que ça te met un coup à l'ego, mais ça doit permettre, juste aplanir les choses. Et puis juste sur un autre point, j'ai lu l'interview d'un ancien patron de Ferrari, qui se plaignait un peu que peut-être qu'au-dessus de Vasseur, on ne le soutenait pas assez publiquement pour le permettre de prendre des décisions parfois justement qui pourraient être impopulaires, tu vois. Et peut-être que c'est aussi ça qui manque tout là-haut, c'est de remettre les choses en place et de donner une bonne ligne directrice, que tout le monde sache qu'il n'y a rien à gratter à droite, à gauche. Si je suis un peu plus comme ci, un peu plus insolent comme ça, je vais peut-être réussir. Non, non, on sait où on est, on sait où on va. Et je pense que de toute façon, à ce niveau-là de la saison, il y a besoin de clarté. Et j'irais même jusqu'à dire qu'à ce moment-là de la saison et avec l'avance de Lewis Hamilton, s'il y a une répartition à faire, ça serait quand même 60-40 pour Lewis. Tu vois, il est devant après le summer break. Je pense que dans l'intérêt de l'écurie, même si Charles, ça ne va pas lui plaire, et je comprends, mais ça, comme tu l'as dit, ça ne l'empêchera pas d'aller gagner une course si un jour il est devant. Mais il faut faire les choses bien et il faut quand même, je pense, privilégier un peu Lewis Hamilton.
Ouais, mais dans ce cas-là, si je veux rebondir sur ça, Lewis ne jouera pas le titre, ou alors ça va être très dur de jouer le titre cette saison. Est-ce que tu prends le risque limite d'enterrer Charles en disant cette année c'est Lewis premier et les années prochaines là où tu peux jouer le titre, tu dis peut-être que Leclerc sera moins en forme. Est-ce que tu prends ce risque-là cette année ou tu laisses planer cette année et l'année prochaine? Si tu joues un peu plus le titre, là, tu pourras taper du poing sur la table.
Ouais, non, mais c'est clair, parce que c'est évidemment pas une bonne chose d'enterrer Charles. C'est pour ça que je disais un peu, tu vois, c'est vraiment circonstancié, quoi, parce que tu peux pas l'enterrer et il est pas enterrable de toute façon. Enfin, je veux dire, on parle quand même de Charles Leclerc. Donc, c'est clair qu'il faut pas aller trop vite en besogne, il faut pas. Et surtout, il faudrait que ça reste en interne, ça, on sait que c'est quasi impossible en F1 que voilà,
même si c'est mieux qu'avant,
mais c'est vrai qu'il
y a moins ça sort un bruit peu moins.
Je pense que de toute façon les hommes sont compétents, les hommes sont intelligents, tu l'as dit, les pilotes sont rapides, donc il y a moyen de trouver une bonne solution, mais on l'a dit tout à l'heure, on voit que c'est souvent placé, c'est rarement gagnant, ça doit générer une frustration qui fait que tout est amplifié, quoi, et que tout va se digérer moins facilement. Et ça ira de mal en pis s'ils n'en gagnent pas une rapidement aussi, quoi.
Et à noter qu'il y aura une livrée en hommage à Michael Schumacher.
Ouais.
D'ailleurs, vous voulez que Lewis reste à 7
titre?
Ouais.
Ah bah non.
Ouais, c'est pas la 8. D'ailleurs, je sais pas si en interview, vous avez vu ce qu'il a sorti, il a dit qu'il porte le maillot de Michael Schumacher. Avec cette étoile, ça tombe bien parce que lui aussi, il en a, donc il sent bien dans le maillot, quoi.
Ouais. Oui, voilà, c'est...
Et puis il rappelle habilement que son coéquipier n'en a pas 7.
Oui, bah ça malheureusement.
Ni une d'ailleurs. Mais,
ouais. Et d'ailleurs, très belle livrée évidemment.
Oui, bah ça.
Quand on écoutait tout à l'heure l'hymne italien, on pense à toutes ces victoires de Michael Schumacher avec la Scuderia, avec Ferrari à Monza. Ouais, peut-être pas eu tant que ça, mais si dans les années domination, mais. Voilà, ça a toujours été des moments très forts pour ça. Allez, place à la deuxième partie de l'émission. Isaac Hadjar est encore forfait. Est-ce que c'est inquiétant pour notre pilote français blessé à la fin du summer break au poignet? Il a manqué Zandvoort et il manque encore Monza alors qu'il y a eu 2 semaines de battement. On rappelle qu'il a un contrat 1+1, donc une option pour 2027. Évidemment, il n'est pas question de baquet menacé, mais c'est quand même un deuxième forfait, sachant qu'il y a toujours un petit peu le culte du secret autour de la gravité au nom de la blessure. Louis, c'est difficile d'évaluer si c'est vraiment principe de précaution, mais là, un deuxième Grand Prix manqué, ça veut dire un petit peu quelque chose.
Ouais, là, c'est... Quand la nouvelle est tombée cet été et qu'il n'était pas là aux Pays-Bas, franchement, ça m'a... ça m'a laissé indifférent dans le sens où je me suis dit, bon, ça arrive, c'est bête, mais ça arrive. C'est arrivé à d'autres. On pense à Lance Stroll, on pense à, en moto, évidemment, parce que bon, le sport fait que tu te blesses régulièrement, à des grands pilotes qui comme ça, ont eu quelques GP, enfin un ou deux. Mais là, deux, à ce moment-là, en plus, on sait que ça pousse. Liam Lawson, bon, Yuki Tsunoda, on le voit mal être réintégré quand même parce qu'il a fait son temps et que la décision avait été prise de s'en séparer. Mais il serait vraiment, ouais, il faudrait pas qu'il y en ait un troisième, tu vois, pour faire simple. Là, je pense que bon, il faut se soigner, ça c'est sûr, parce qu'il faut pas que ça continue. Mais Isaac, il fait une bonne saison, tout le monde a confiance en lui dans l'écurie, mais il a une très très jeune carrière qui lui permet pas de pouvoir s'éterniser loin des paddocks et loin de la piste. Il a besoin de, parce que c'est un monde de fou où tout va très vite, où on oublie très vite les bonnes choses. Et donc, on a besoin de prouver en permanence, surtout quand on est un jeune pilote, surtout quand on a un pilote qui conduit pas trop mal à côté, dans le garage. Donc, toutes ces choses-là font que là, il perd du temps. Il perd du temps sur sa progression et ça sera du temps irrécupérable. Donc, en espérant que les conséquences soient minimes à terme, mais j'espère vraiment que c'est le dernier Grand Prix et j'espère que sa convalescence se passe bien aussi, qu'il n'y a pas de complications. Parce que comme tu le dis, c'est secret, on s'attendait tous à ce qu'il soit de retour et il n'est pas de retour. Donc ça peut aussi laisser place à l'imagination de certains et à se dire, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que c'est plus grave que prévu. Et lui-même, dans sa tête, on le connaît, il en veut.
C'est un lion en cage. Hein.
C'est ce que j'allais dire, il doit être fou de cette situation, il doit revoir ce coup de poing dans le punching ball là, qui lui a cassé le poignet 15 fois par jour en disant, mais quel idiot, enfin, alors qu'il n'y peut rien, enfin, c'est la vie, on fait du sport, on se blesse, enfin, je veux dire, c'est la base. Mais, et donc, j'espère aussi que lui, sur son plan personnel, il se gère aussi et il essaye de le vivre au mieux possible. Et bon, je lui fais quand même confiance pour revenir à fond quand il sera de retour, mais il faut qu'il revienne, ouais.
Alors, on enchaînera dès la semaine prochaine, en tout cas, le week-end prochain, avec le fameux Madring. Oui, Ilias, on peut potentiellement s'attendre à ce qu'il soit encore forfait le week-end prochain. Et là, il y aura deux semaines avant Bakou. Est-ce que le juge de paix, c'est voilà. Peut-être que la stratégie de Red Bull, c'est de dire, bon, écoute, on va prendre notre temps. De toute façon, on sait qu'on ne va pas pouvoir jouer le titre des constructeurs, qu'on est derrière Mercedes, Ferrari et McLaren. Prends ton temps avec Bakou, on consolide tout ça. On ne va pas non plus être trop alarmiste, mais c'est vrai que on peut peut-être lui donner jusqu'à Bakou, quoi.
Ouais, c'est sûr que d'un côté, c'est très regrettable la blessure parce qu'il était tellement sur un bon élan. Venir casser ça avec cette blessure, ouais. c'est très dommage. Et surtout, lui, je pense qu'il doit mal le vivre. Après, sur son poignet, il y a deux versions. Moi, j'ose penser que si Red Bull n'a pas communiqué, c'est que la blessure n'est pas si longue que ça. Je pense que s'il y avait du 1, 2, 3 mois de...
Ah bah oui.
Ils auraient dit, bon, voilà, il n'est pas apte jusqu'à tel Grand Prix à peu près. Donc, j'ose imaginer que peut-être qu'il est à 70% et d'un côté, je vois de la maturité de son côté de se dire, je ne suis pas à 100%, je n'ai pas à risquer quelque chose et peut-être une blessure plus grande. Bon, je laisse Monza, je laisse peut-être le Madrid, mais au moins, je reviens beaucoup plus fort. D'un autre côté, c'est sûr que lui, mentalement, ça doit être très dur à vivre. Il était combien sur 5, 6 top 6 d'affilée. Ouais. Et d'un coup, louper 2, 3 Grands Prix, voir Lawson plutôt performer, etc., ça doit le ronger. Donc forcément, c'est dur. Ce qui peut être aussi inquiétant, c'est que même à 80%, Monza, ce n'est pas le circuit le plus éprouvant pour le poignet. Se dire que s'il n'est pas vraiment prêt à conduire à Monza, bon, ça laisse planer. Bon, je pense qu'il ne sera pas là au Madring. Est-ce qu'il sera là à Bakou ? Et comme lui, pour le coup, un circuit bien plus éprouvant, ça reste à voir.
Et peut-être qu'il y a aussi sa très bonne première partie de saison fait que on court peut-être moins avec le temps, c'est même ça, si c'est sa c'est première saison en Bakker Red Bull, c'est de se dire, ouais. La sagesse avec Laurent Mekies, t'as déjà pratiquement tout prouvé pour qu'on te garde, que tu restes dans ce Bakker Red Bull, prends ton temps, ne t'inquiète pas, il y a peut-être de ça aussi, je veux dire, il n'y a pas d'urgence à ce qu'il gagne ses galons, parce qu'il les a pratiquement déjà gagnés.
Oui, et globalement, la théorie se tient, et il y a de grandes chances que ça soit ça, et ça nous rassurerait, nous, de savoir que bon, c'est une décision collégiale et qu'en fait on ne se presse pas parce que en fait tu vas rester longtemps avec nous, enfin en tout cas c'est notre souhait et donc on veut que pas que ton poignet il déraille toutes les trois semaines parce que tu es revenu trop tôt ou qu'il te gêne, que la douleur se réveille, qu'il y ait une rechute. Donc on fait les choses bien, on prend notre temps parce que de toute façon, cette année, l'écurie, bon, elle n'a pas grand-chose à gagner, à perdre. Elle va faire au mieux, mais comme tu dis, c'est pas, il n'y a pas à se presser en fait, mais c'est la Formule 1. Il n'y a pas à se presser. Et puis là, ce week-end, Lawson, il fait une super course et machin. Et là, il y a 12 articles dans le monde entier, dans la presse. Liam Lawson. Et c'est un emballement qui peut aller vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il revienne vite. Après, je me dis, j'ai peut-être une idée. Il est peut-être hyper intelligent et il a anticipé qu'avec le tracé tout pourri du Madring, il allait faire en sorte d'être forfait. Tu vois, ouais. Il s'est dit, je ne vais pas me le faire.
Et imagine là, si l'autre fait le podium.
Tu vois. Donc, c'est pour ça. Il faut revenir avant que ces choses-là puissent arriver. Tu vois, il faut tout de suite boucher la fuite.
Mais après, quand on compare ça, par exemple, à la situation quand Ricardo s'était blessé au poignet à Zandvoort, lui, il était fragilisé chez Racing Bulls. Lawson le remplace, performe. Et là, du coup, Lawson commence à s'imposer. Mais parce que avant ça, Ricardo était très fragilisé. Vu les performances d'Adjar, je pense que c'est pour ça qu'il prend son temps. Vous avez bien raison. Il n'y a pas à se presser.
Oui, hormis deux boîtes pour Lawson et encore, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas les faire.
Il faut les sortir.
Exactement, pour Liam Lawson. Savez-vous que c'est le petit surnom de Isaac Adjar ? On compare un peu le petit Prost. Savez-vous qu'Alain Prost, lors de sa première saison en Formule 1, avait manqué deux Grands Prix sur blessure ?
Alors là,
blessé au poignet.
On lui souhaite la même carrière.
Que la différence, c'est qu'il s'était blessé lors des essais Grand Prix d'Afrique du Sud, donc année 80, l'année 1980, sa première année chez McLaren, sa seule, parce qu'après il est parti chez Renault. Il avait manqué derrière Long Beach et Zolder, puisque le Grand Prix de Belgique se déroulait à Zolder. Ouais. Il y avait un problème mécanique sur sa voiture au Grand Prix d'Afrique du Sud et poignet cassé. Donc Alain Prost avait manqué deux Grands Prix. Les comparaisons, ça arrive même au meilleur.
Exactement, dans 10 ans, quadruple champion du monde, Isaac. Et puis voilà.
C'est bien.
Moi, ça me va.
Mais Prost avait loupé deux Grands Prix.
Oui.
Si Isaac en loupe 3, 5.
Du coup, il avait loupé 3 parce qu'il avait loupé l'Afrique du Sud, comme il se blesse. Ouais. Et puis derrière,
à titre.
Ouais, c'est des saisons où tu n'avais que 15 Grands Prix aussi.
Le circuit de Long Beach, on est content qu'il n'y soit plus.
Oui. Un peu tragique. Allez, l'actualité en bref de la Formule 1 pour conclure ce numéro de Paddock. Avec, vous allez me dire, est-ce que je pite ou je continue? Vous savez, ça fait un petit peu le « je m'en fous pas » de nos amis des grandes gueules du sport. Lando Norris qui prolonge son contrat jusqu'en 2030. Est-ce que Lewis Hamilton et Charles Leclerc, c'est pas un peu Alain Marchand, Olivier Truchot?
je les confonds tout le temps. Moi, je sais jamais qui sont les pilotes qui présentent les grandes gueules.
Bon, Lando Norris qui prolonge son contrat jusqu'en 2030. Vous pitez ou vous continuez?
Moi, je pite.
Oui. Ouais, moi, je continue dans le sens où j'ai une prédiction pour Norris. Ah. On l'avait dit dans le débrief de Zandvoort, tous ceux qui ont prolongé leur contrat, le Grand Prix d'après, crash.
Ah.
Norris, ce week-end, c'est DNF. Ouais, yes. C'est la malédiction de cette année.
J'attends que la Pinto, là, qui a prolongé aussi.
Ouais. Ouais.
Bon, 2030, comme Max Verstappen l'a duré, signe de confiance, les planètes s'alignent pour Lando Norris son bon retour. Et
il est en forme, il a une voiture qui revient, il a l'air d'avoir retrouvé le moral parce qu'il a un côté où quand tout va pas bien, ou parfois il est un peu ronchon, mais on le comprend. Là, il a l'air de, comme tu l'as dit, que dans sa tête, les planètes s'alignent, la voiture, tout bien. Moi, je vois une belle fin de saison de Norris, et c'est vrai que cette prolongation qui est longue, elle montre une confiance mutuelle quand même dans le projet. Évidemment que l'écurie a confiance en son néo-champion du monde, mais on peut toujours se dire que McLaren a beau être une très belle écurie qui a récemment pas mal gagné, elle n'est pas forcément la top 1 de ce qui peut faire rêver un pilote ou être l'aboutissement total d'un rêve de gosse en pensant à Ferrari ou d'être dans les deux meilleurs des 10-15 dernières années qui sont Red Bull ou Mercedes. Et on peut toujours se dire qu'un pilote comme Lando, maintenant qu'il a été champion du monde avec McLaren, peut avoir cette envie d'aller voir ailleurs, peut avoir la légitimité de postuler pour un de ses baquets, même si pour le moment, il n'y en a pas vraiment de libre. Mais dans l'idée. Donc voilà, cette longue prolongation, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème McLaren, puisque ça envoie une sérénité quand même et une confiance à tout le monde, même dans l'équipe, même dans les usines. Quand tu bosses et que tu sais que voilà, tu bosses pour lui, pour longtemps, enfin, ça met les idées claires, et en F1, les idées claires, c'est toujours une bonne chose.
Et il y a peut-être un malheureux dans cette histoire, parce que c'est un pilote qui est un petit peu pas en train de lâcher, mais en difficulté, c'est Oscar Piastri, même si on nie des problèmes de mental, etc. Mais on parle de presque 60 millions d'euros par an pour Lando Norris, c'est un signe très fort et ça montre clairement que les choses sont claires.
Bah déjà que le mental de Piastri était vraiment au plus bas, je pense que là c'est un petit coup derrière la nuque, c'est peut-être le coup ultime derrière la nuque qui lui dit bon bah tu seras pas le numéro 1 chez McLaren. Je sais pas où est-ce que tu peux rebondir, mais en tout cas...
Il va finir chez Alpine, je vous le dis, moi.
T'imagines ?
J'attends le tweet, hein.
J'attends le communiqué. Ah ouais. T'imagines en com, tu reprends le tweet d'Alpine qui annonçait Piastri, on vous l'avait bien dit.
Ouais. Ça serait génial. Ça serait génial. Mais en vrai, je lui souhaite pas. C'est très dur ce qu'il est en train de vivre. On se rappelle qu'il y a un an, à la même époque, il était vraiment...
Ça fait un an qu'il n'a pas gagné, je crois.
Il était leader du championnat.
Il était leader du championnat. Et je me souviens, avec Jean-Luc, avec vous tous, on passait nos podcasts à dire c'est un tueur de sang-froid.
Pas Norris.
C'est pas Norris. Il n'en rate pas une. Et depuis, c'est l'inverse. C'est que ça ne va plus. Moi, je pense que Le coup, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne, mais c'est vrai qu'il y a eu des décisions, on a bien vu que ça...
D'ailleurs, à Monza, on a ressorti la radio de Max Verstappen, où il y avait un mauvais arrêt au stand pour Norris, qui était derrière Piastri, on avait demandé en course de laisser repasser Norris, et Max Verstappen avait rigolé à la radio.
Ben oui, donc je pense que... Bon. La coupe est pleine sûrement pour Oscar, il a peut-être besoin d'un nouvel environnement, un peu à la manière d'Esteban à la fin d'Alpine, où il a cherché un nouvel environnement quoi qu'il en soit, et puis finalement tu te retrouves pas pire, pas mieux, mais tu te retrouves chez Haas avec des ambitions quasi inexistantes, tu es sur un projet de construire quelque chose et tu sais pas où tu vas. Donc Oscar Piastri, il est dans une situation où il se dit bon, ok, là, c'est dur, mais d'un autre côté, je suis dans la 2-3e meilleure voiture, donc c'est aussi compliqué de tout envoyer en l'air. C'est une situation qui doit être hyper frustrante, parce que je pense qu'il aurait envie de rentrer dans le bureau de Zak Brown et de lui dire ses quatre vérités, mais d'un autre côté, Zak Brown, il pourrait le ramener au train et lui dire « Allez, ciao !» quoi. Donc c'est très compliqué, mais comme je vous l'ai dit à l'instant, la F1, ça va très vite aussi, et à lui de réussir à se remettre dedans, et on sait qu'il est rapide, on sait qu'il a le talent. Et si l'année prochaine, il remet tôle sur tôle à Norris, on changera de discours. Et donc voilà, donc rien n'est perdu. Moi, je pense que c'est le moment d'avaler des couleuvres. Il pense peut-être que ça fait beaucoup, mais il est encore jeune, il est rapide, il est dans une voiture qui peut jouer le championnat régulièrement. Donc c'est peut-être le moment de serrer les dents et de faire un peu de sophrologie, un peu de relaxation et de repartir de l'avant. Mais je ne le vois pas trop repartir de l'avant cette fin de saison. Moi, j'attendrai plutôt la saison prochaine pour espérer revoir le Piastri de l'année dernière.
Tiens, Haas, puisque tu parles d'Esteban Ocon, Haas qui apporte des évolutions. Vous pitez ou vous continuez ?
Je pite et je ronfle même.
Je voulais dire un truc pareil.
Est-ce que ça ne peut pas être décisif pour l'avenir d'Esteban Ocon ? On a parlé de faire des tests, là. Ouais. Bon, c'est le moteur Ferrari qu'on améliore légèrement.
Alors apparemment, je crois que lui, il ne l'aura pas ce week-end, mais Berman, si. C'est déjà des petits indices sur l'avenir d'Esteban. Bon, après, on n'est pas fous non plus. Hein. Les performances depuis quelques temps...
Et puis Berman est devant.
Berman est devant, donc c'est aussi une logique implacable. Malheureusement, j'ai quand même l'impression que l'avenir en F1 d'Esteban, il se bouge quelque peu, puisque quel pourrait être quel autre projet, en fait ? À moins que Bottas dise, bon, en fait, le gravel, c'est quand même mieux que t'as 3 secondes des temps. Mais du coup, Valtteri Bottas, tu te retrouves dans une Cadillac et c'était bien payé, tu continues de faire le tour du monde. Mais côté sportif, tu es un peu loin de ça. Je sais qu'Esteban est un fan de sport auto qui aime conduire tout ce qui roule, un peu à la Max Verstappen. Donc, Bon, peut-être qu'il pourra retrouver une catégorie dans laquelle il pourra s'éclater, dans laquelle son CV de pilote de Formule 1 pourra lui permettre d'intégrer un baquet qui peut gagner des grandes choses. Et c'est peut-être là qu'il va trouver son salut dans sa carrière, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que, malheureusement, parce qu'on aime beaucoup Esteban et qu'il a prouvé que c'était un pilote rapide, malheureusement, là, ça se complique et ça se bouge pour lui.
Sachant qu'on attend toujours la décision de Fernando Alonso.
Oui, mais est-ce que si demain Fernando dit allez, c'est fini pour moi,
est-ce que le baquet va forcément à Ocon?
Moi, je suis pas sûr que du côté d'Aston, on pense, enfin en tout cas, je me mets à la place d'un team principal. Je me dis, est-ce que on repart sur un pilote d'expérience, mais en moins bien, si je puis me permettre, puisque quand même, bon, bah il y a quand même des titres de champion du monde en moins, il y a quand même un écart donc. Ça ferait pas non plus rêver pour le projet Aston, malheureusement, en fait. Tu vois, ça me fait mal de le dire, mais c'est la vérité.
Tiens, parmi les autres évolutions, pas de duo pour Mercedes et son moteur. On attend même une amélioration plutôt courant de l'automne pour la fin, sachant qu'on l'a dit, Kimi Antonelli pénalisé, et qu'on attend la bonne fenêtre aussi pour changer des éléments moteurs pour George Russell, afin que ça soit sur un circuit moins gênant. Et Audi a annoncé son développement gelé. Et donc on attend 2027. Et puis tiens, la dernière information, Red Bull qui tient son nouvel ingénieur en chef. Vous pitez, vous continuez?
Bah là, je continue quand même.
Giampiero Lambiadze va quitter Red Bull pour McLaren en 2028, ça on le sait. Et donc c'est Tom McCulloch d'Aston Martin, directeur de la performance chez Aston, et qui va donc rejoindre l'écurie du taureau en tant que Head of Racing. Alors attends, non, mais laissez-moi, c'est un profil très expérimenté.
Oui.
Ça fait plus de 20 ans qu'il a passé chez Williams. Il a été notamment les ingénieurs de course de Hülkenberg, Barrichello ou même Bruno Senna. Ah, alors vous rigolez parce que Aston.
Oui, non mais
ça va mieux quand même.
Et dans puis... la même phrase, quand t'entends performance et Aston Martin sur les dernières années, tu te dis. Mais évidemment que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont ingérables pour ces postes-là. C'est-à-dire que ces mecs-là sont talentueux. Ces mecs-là, tu fais pas 20 ans en F1 si t'es une bille. Ça, c'est clair et net. Donc maintenant, il va falloir gérer le mariage, en fait. Il va falloir qu'il arrive dans cette nouvelle écurie et que comme on pourrait dire un peu trivialement, qu'il se renifle et que tout le monde veuille travailler ensemble. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est quand même on a vu récemment des très gros changements à des très gros postes dans cette écurie, et finalement ça se passe très bien, voire mieux. Donc il n'y a pas de raison que le départ de Lambiadze soit un cataclysme. Et de la même manière, lui à McLaren, ça va être une nouvelle philosophie aussi. Donc c'est toujours ça en Formule 1. Et donc on lui souhaite bonne chance et surtout de meilleures années que ce qu'il vient de vivre.
Donc là on parle Head of Racing. On parle pas forcément de l'ingénieur de course de Max Verstappen pour l'instant. Ils vont peut-être chercher quelqu'un d'autre aussi en interne. Parce qu'évidemment, il faut un relationnel important. On sait que beaucoup de choses se jouent. Regardez Lewis Hamilton entre l'année dernière et cette saison.
Ouais.
C'est tout.
Bah voilà.
Rendez-vous.
Il n'y a plus qu'à se mettre devant les essais libres demain.
Essais libres vendredi, pas de week-end sprint, hein, format normal. Qualification à 16h évidemment à suivre avec Jean-Luc Roy sur RMC samedi. La course départ à 15h pour ce Grand Prix de Monza. Et lundi, évidemment, le débrief de ce Grand Prix. Le paddock RMC sera là. N'oubliez pas les petites étoiles, dire que vous avez aimé, vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Et on vous remercie et on vous dit à lundi. Très bon week-end italien. Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.